Aujourd'hui, dimanche de l'Ascension. Dimanche de l'Ascension, il faut préciser. Il faut préciser dimanche parce qu'en fait, l'Ascension, c'était jeudi. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans les milieux évangéliques, on a perdu la célébration de l'Ascension le jour de l'Ascension. Si vous allez dans les milieux réformés, le jeudi, ce jeudi qui vient de passer, ils avaient un culte, le culte de l'Ascension, et c'est quelque chose d'important. Et je me suis posé la question, mais pourquoi dans les milieux évangéliques, peut-être pas dans toutes les églises évangéliques, mais beaucoup, pourquoi il n'y a pas de culte le jeudi de l'Ascension? Parce qu'en fait, si je comprends l'Ascension, je commence à me comprendre moi-même. Si je comprends l'Ascension de Jésus, je commence à me comprendre moi-même en relation avec mon Seigneur. Je commence à comprendre ma mission sur terre, je commence à comprendre ma destinée céleste. Alors pourquoi on parle si peu de l'Ascension? Bien, en cherchant un peu, je me suis dit, mais en fait, Matthieu n'en parle pas. Jean n'en parle pas. Marc, il en parle, mais d'une manière assez lapidaire. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Point barre. Ok. Luc, il en parle un petit peu plus. À la fin de son évangile, on peut aller voir ce qu'il dit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Alors il reprend quand même l'épisode, parce qu'apparemment c'était quand même assez important, au début des Actes. Après avoir dit cela, c'est-à-dire après avoir annoncé pour dans quelque temps le Saint-Esprit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pourquoi avez-vous les yeux fixés vers le ciel? Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. » Mais c'est ça le message. Circuler, il n'y a rien à voir. En général, quand on dit cette phrase « circuler, il n'y a rien à voir », c'est que justement, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un fait divers, il y a tous les curieux qui s'attroupent sur les lieux, puis on essaye de leur dire « mais circulez, quoi. Allez vaquer à vos occupations. » Il n'y a pas grand-chose qui nous parle de ce moment de l'Ascension. Et personne ne pouvait imaginer que ça allait arriver. Imaginez un petit peu les disciples. Mettez-vous à leur place. Ils sont là avec Jésus, Jésus qui est ressuscité. Jésus, tout à coup, il s'élève dans le ciel. Et puis on leur dit, ne restez pas plantés là. Il faut quand même essayer d'imaginer les choses. Aujourd'hui, si on veut envoyer une fusée dans les cieux, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, dans les cieux, il faut bien se comprendre, dans le ciel des étoiles, qu'est-ce qu'on fait? Mais les médias, ils vont nous en parler en long, en large et en travers. On va nous dire d'où va partir cette fusée, à quelle heure, quelle date, qui l'a construite, avec quels matériaux, quelle nouvelle technologie qui va faire moins de dégâts pour la planète, mais elle va partir plus haut, plus vite, revenir je sais pas quand. On va tout savoir, on ne sera pas étonné. Si dans quelques années, on se déplace en drone, on ne sera pas étonné. Parce qu'on voit que toutes ces choses arrivent. Mais l'ascension de Jésus. Jésus, il a annoncé qu'il allait mourir et ressusciter. Quand il est mort, les disciples n'ont rien compris. Et ils sont tous partis. Et quand il est ressuscité, ils n'ont pas compris non plus. Et ensuite, Jésus apparaît, disparaît. Et là, il monte. Et en plus de ça, si on va dans, dans le dernier passage de Matthieu, ce passage bien connu, Matthieu 28, à partir du verset 18, Jésus est donc ressuscité depuis 40 jours. C'est juste avant qu'il s'élève dans les cieux, il a convoqué ses disciples, les 11, sur la montagne, et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et hop, il s'en va. Et nous alors? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va aller, on est 11, comment est-ce qu'on va aller faire de toutes les nations des disciples et tout leur enseigner à observer alors que Jésus est parti? Il vient de nous dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » et il s'en va. Personne ne pouvait comprendre ça à ce moment-là. Et maintenant encore, on a un petit peu de la peine à comprendre. Pourtant, si je comprends l'ascension, je commence à me comprendre moi-même. Une des choses que Jésus dit avant de donner son mandat et avant de retourner au ciel, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas dans le ciel des étoiles, ça en fait partie, mais ça fait partie de la terre, ça fait partie de la création. Le ciel, c'est les lieux spirituels. C'est là où il y a le trône de Dieu, mais c'est là aussi où il y a toutes les forces spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Sur toute puissance, sur tout ce qui existe. Et pour comprendre ça, il a fallu attendre quelques années. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui en a eu la plus grande révélation. Il y a un passage au tout début de l'Épître aux Hébreux, c'est le livre qui nous parle, je crois, le plus de Jésus qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus soit élevé? Alors, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais certainement que Paul n'y est pas étranger. En tout cas, il y a certainement son influence qui est là, au minimum, il y a l'influence de Paul. Mais bien sûr, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il nous a dit au tout début de l'Épître aux Hébreux, les trois premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà comment commence l'Épître aux Hébreux. Comment commencent les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Jésus a fait la purification des péchés. Bien sûr qu'on le sait. Mais c'est pour ça que le Fils s'est incarné, qu'il est venu sur terre, qu'il a fait son œuvre à la croix. Par son sacrifice, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la malédiction, il a vaincu toutes les puissances occultes, tous les trônes, toutes les dignités démoniaques, toutes les puissances de Satan. Il a tout vaincu. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui se rebelle à Dieu, Jésus l'a vaincu. Parce qu'il a fait la purification des péchés, parce qu'il est mort en croix. Tout pouvoir lui a été donné, parce qu'il a tout acquis à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis à la droite de Dieu. Jésus n'est pas allé s'asseoir sur un nuage. Jésus est entré avec un corps d'homme, mais un corps ressuscité, un corps transformé. Il est entré avec un corps d'homme, un corps de chair glorifié, dans cette sphère spirituelle à laquelle nous n'avons encore pas physiquement accès. Et il s'est assis à la droite de Dieu. La position assise, c'est celle des rois et des juges. On règne en étant assis sur un trône. On juge en étant sur le fauteuil du juge. Voilà pourquoi Jésus est assis. C'est parce que tout pouvoir lui a été donné. C'est parce qu'il est dans une position d'autorité. Et Jésus ne pouvait pas occuper cette place tant qu'il était sur la terre. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il soit élevé. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il n'est pas parti tout seul. Il nous a pris avec lui. Nous sommes montés au ciel avec lui. Regardons Philippiens, 3e chapitre, le verset 20. C'est Paul qui écrit aux Philippiens et qui dit « Mais nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui sommes au bénéfice de son sacrifice, de la purification des péchés, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Notre cité est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. J'aimerais vous poser une question. Qui est-ce qui, dans cette salle, a deux passeports? 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'est qui a une double nationalité? Ça veut dire un passeport suisse, par exemple, et puis une autre nationalité. Il y en a quelques-uns. Font partie des élus. Non, toi, tu as un passeport suisse, tu n'as pas un passeport d'une autre nationalité. Alors, tu n'as qu'un passeport. Voilà. Mais voilà, il y a des personnes qui ont deux passeports, ils ont une double nationalité. Alors, je ne vais pas demander à ces personnes pourquoi elles ont une double nationalité. Les raisons peuvent être multiples pour avoir deux passeports. Mais la plupart du temps, quand on a une double nationalité, c'est qu'on a, nous ou nos parents, ou nos grands-parents, ont essayé de fuir une situation difficile. C'est, dans la majorité des cas, on va chercher une autre nationalité pour espérer une situation meilleure. L'exemple des migrants. Si vous regardez aux frontières entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, mais c'est catastrophique. Il y a des milliers de migrants qui sont là, qui essayent de fuir une situation difficile. Et ça crée plein de problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes éthiques, des problèmes de santé publique. On ne sait même pas comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ça. Si on regarde les migrants qui arrivent en Europe par la mer, c'est des personnes qui essayent de venir dans une autre patrie au péril de leur vie. Pour faire ça, il faut avoir une bonne raison. C'est des raisons qui sont difficiles. Alors ces personnes, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent quelque chose de meilleur, une vie meilleure. Et idéalement, ce passeport. Elle cherche des papiers d'établissement. Elle cherche à être légalisée dans une nouvelle patrie. Et le must, c'est d'avoir un passeport. Ça va donner des droits, des privilèges, idéalement la sécurité, la paix, une certaine prospérité. Pas une mauvaise prospérité, mais juste avoir un toit, des habits, de la nourriture, pouvoir élever ses enfants correctement, vivre comme tout le monde aimerait vivre. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour nous. Nous avons un passeport terrestre, c'est celui de notre naissance. Nous sommes nés en Adam, nous sommes tous fils d'Adam. Et sur ce passeport, il y a marqué notre nom et il y a marqué « marqué par le péché ». Ça, c'est notre passeport terrestre. Et ça nous limite complètement. Ça nous limite complètement. Physiquement, nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre santé. Nous subissons le processus de vieillissement. Nous sommes limités dans nos relations, dans notre façon de penser, Même quand on veut faire le bien, on n'y arrive pas. Quand on ne veut pas faire le mal, on le fait quand même. On est complètement limité en toute chose. Et nous vivons cette dure réalité sur la terre. Mais nous avons un passeport céleste. C'est celui de notre adoption. Parce que Jésus a tout pouvoir, parce qu'il a fait la purification des péchés, parce qu'il est monté au ciel et qu'il nous a pris avec lui, il est noté sur notre passeport céleste, purifié par le péché, adopté. Et un peu de la même manière où Jésus a deux natures, une nature humaine et une nature divine, et il est une seule personne, eh bien, nous aussi, nous avons un passeport terrestre, un passeport céleste, mais en fait, nous sommes un seul être. Et nous avons été purifiés de nos péchés. Alors, notre cité est dans les cieux. Alors, par la foi, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous l'attendons pour que notre corps soit transformé, pour que nous ayons aussi, physiquement, accès dans ces lieux spirituels où il est maintenant. Actuellement, on y a accès spirituellement. Mais bientôt, on y aura accès dans tout notre être. Souvenez-vous, Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. » Tout ça, c'est notre union avec Christ. Eh bien, nous sommes élevés avec Christ. Ce que Jésus a fait, c'est complet. Il ne nous a pas laissés au bord du chemin. Il nous a pris avec lui. Nous sommes déjà spirituellement avec lui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie déjà, au niveau pratique, un changement d'attitude, un changement de comportement. Ça doit changer nos compréhensions. Quand on comprend que Jésus nous a donné ce passeport, que nous avons une destinée qui n'est pas celle du vieillissement, qui n'est pas celle de la maladie, qui n'est pas celle des galères, ça devrait nous impacter, pour prendre un mot d'aujourd'hui. Ça voudrait dire, déjà dans nos comportements, où on devrait essayer de changer pour correspondre à l'éthique du royaume de Dieu. Dans Colossiens, il nous est dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. » Etc., etc., etc. Ça fait du bien de repasser du temps dans les Colossiens. C'est un petit livre, c'est une petite lettre. Moi, je vous encourage à aller vous immerger dans cet épître. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le fait que nous soyons montés dans les cieux avec Jésus, ça implique quelque chose dans notre façon de vivre. Ce premier aspect de l'ascension de Jésus, c'est ce passeport. C'est ce passeport céleste. Et il y a un deuxième aspect. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, il est avec nous parce que nous sommes montés, donc nous sommes avec lui. Mais Jésus ne pouvait pas être partout tant qu'il était sur terre. Dans Philippiens 2, il y a un texte tellement merveilleux qui parle de Jésus et qui dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé. Il était toujours Dieu, mais il s'est dépouillé d'une partie de ses attributs divins. Par exemple, l'omniprésence. Jésus ne pouvait pas être partout quand il était sur terre. alors je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et vous, vous allez aller dans toutes les nations. Il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Et en montant au ciel, Jésus a retrouvé, il s'est revêtu de tout ce dont il s'était dépouillé. Il s'est revêtu de cette omnipotence, de cette omniprésence. Et on sait qu'il a envoyé son Saint-Esprit. C'est un des deuxièmes aspects de l'ascension de Jésus. C'est qu'il est monté, mais il est descendu. C'est son Esprit et c'est l'Esprit du Père qu'il a envoyé pour chacun de nous. Et c'est à cause de cet Esprit qu'il est possible de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir ce petit passage-là de faire des nations des disciples. On va le voir très bientôt. On pourra rebondir sur cet aspect de l'ascension. Mais il y a certains aspects qu'on peut déjà comprendre aujourd'hui, même si ce n'est pas encore la Pentecôte. Jésus est monté au ciel. 10 jours après, il envoie son Saint-Esprit. Il redescend. Et nous savons que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et plus la terre est évangélisée, plus la présence de Jésus se répand sur toute la surface du globe. Jésus se répand, mais il n'est pas limité. Il peut encore se répandre autrement. L'atmosphère du ciel peut dépasser notre corps physique, mais nous sommes tous ses enfants, nous sommes porteurs de la présence de Dieu, parce que son esprit est en nous. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Il témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Et le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes adoptés, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit en nous-mêmes, il crie « Abba, Père ». C'est le témoignage du Saint-Esprit. Combien de chrétiens disent « Mais moi, je n'entends pas le Saint-Esprit ». Mais moi, si tu me parles du témoignage du Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Il ne me parle pas, ou je ne l'entends pas, ou je ne sais pas comment. Je pense que, mais peut-être que je me trompe, parce que j'ai qu'une vie. Moi, ma vie à moi, c'est d'être née dans la foi. J'ai toujours connu le Seigneur. Donc je ne sais pas ce que c'est de ne pas connaître le Seigneur. Et j'ai l'impression que pour quelqu'un qui est dans ce même cas, ce n'est pas facile de savoir qu'est-ce que c'est que le témoignage du Saint-Esprit parce qu'on l'a toujours connu. Et le fait qu'on l'ait toujours connu, ben on n'a jamais pris le temps de se dire « Ah, mais c'est comme ça qu'il parle. » On ne sait même pas l'écouter. Tandis que quelqu'un qui ne l'a pas connu, qui a su ce que c'était que de vivre ce vide intérieur, et tout à coup qui est rempli du Saint-Esprit, il sait discerner la différence. Alors on doit tous faire cet exercice de se dire, mais c'est quoi le témoignage du Saint-Esprit en moi ? Il y a quelques années, je dirais même un certain nombre d'années, vous savez l'époque où il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable, si ça existait. Il y a eu une grande mode, c'était celle des ictus. Ketia, tu te souviens de la mode des ictus ? Élise, pas tellement, hein. Si je vous dis un poisson autocollant, ça vous dit quelque chose? Quand même un petit peu. C'était la mode. Ictus, c'est un mot grec, et si on prend ce mot veut dire poisson, et si on prend chacune de ces lettres, ça fait les premières lettres de la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et en fait, c'était un code, le sigle du poisson, c'était un code. Pour les chrétiens persécutés, ils se reconnaissaient avec ce sigle. Et à un moment donné, ça a été la grande mode de coller un poisson à l'arrière de nos voitures. Alors c'est vrai que ça a fait un peu polémique, parce qu'à côté du pot d'échappement, c'était pas tellement... Voilà, c'était un petit peu malheureux comme emplacement. Mais c'était super pratique. C'était super pratique, parce que c'était aussi l'époque où il y avait des grands rassemblements. Et il n'y avait pas de téléphone portable et pas de GPS. Le GPS, c'était les poissons. Quand on allait quelque part dans une grande ville pour aller à une convention, qu'est-ce qu'on faisait? On repérait les voitures, puis chaque fois qu'il y avait toujours plus de poissons, on se disait « c'est là, regarde, il y en a un, on le suit !» Puis on arrivait au bon endroit. C'était un signe extérieur. C'était un signe extérieur que nous sommes de la même famille. Ça arrivait aussi, on partait en vacances et puis sur la route, on dépasse une voiture avec un poisson. On avait envie de faire coucou. Mais on ne les connaissait pas, ces gens. Mais on savait qu'on était de la même famille parce qu'il y avait le poisson. Signe extérieur. Mais maintenant, ça vous fait quoi? Quand vous êtes dans un environnement et que vous vous rendez compte tout à coup, vous ne le saviez pas, mais qu'une personne est chrétienne. Et même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en vacances justement, et puis vous voyez des gens, puis vous dites, mais est-ce qu'ils ne seraient pas chrétiens? Et puis tout à coup, vous les voyez, je ne sais pas moi, prier avant le repas, ou vous entendez un chant au bord de la plage, ou en torée quelque part, vous voyez qu'il y a des gens qui ont une guitare, qui chantent, ou alors d'autres choses, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou même vous changez de travail, et sur votre place de travail, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui appartient au Seigneur. Ça vous fait quoi? La joie. Mais pourquoi? Parce qu'on est de la même famille. C'est comme s'il y a un témoignage à l'intérieur qui dit on est de la même famille. On ressent qu'on en est. On fait partie d'un peuple. On fait partie de cette nation sainte. De cette nation sainte qui a été sortie du monde pour le Seigneur. On se rend compte qu'on est différent. Je ne sais pas si en tant que chrétien vous savez que vous êtes différent. Est-ce que vous avez des fois l'impression de marcher à contre-courant? C'est pas facile. C'est franchement pas facile. Mais c'est ça, ce témoignage intérieur. C'est que vous savez que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous savez que vous faites partie d'un peuple. Vous savez que vous êtes sacrificateur. Vous savez que vous êtes une nation sainte, pas dans le sens où vous êtes des saints par vous-même. Non, pas du tout. Sainte dans le sens de mis à part parce que purifié de votre péché. Mis à part pour rendre gloire à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés tout seuls. Dieu, dans sa bonté, nous a donné une famille. Et il fait en sorte qu'on puisse se reconnaître. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. C'est une bribe. C'est une bribe du témoignage du Saint-Esprit. Et je pense que c'est des choses presque basiques, mais qu'il faut qu'on apprenne à reconnaître en nous. Parce qu'après, le Saint-Esprit va nous témoigner d'autres choses. Et plus on saura reconnaître cette voix, plus on va pouvoir évoluer dans notre vie spirituelle. Plus lorsqu'on va se mettre à prier, on va comprendre quand on prie avec notre tête et quand on prie avec l'inspiration du Saint-Esprit. On va pouvoir aller chercher les choses dans le ciel pour les amener sur la terre parce qu'on saura qu'on a ce témoignage du Saint-Esprit. Et on sait qu'on a ce passeport céleste qui fait qu'on a accès aux choses du ciel parce que tout pouvoir a été donné à Jésus, mais nous sommes avec Jésus. Et il a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde, avec son esprit, pour nous donner ces choses, pour qu'elles puissent s'appliquer sur la terre. Exode 19,6, et vous? Vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Nouveau Testament, 1 Pierre 2, 9, 10. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous avons une double nationalité. Le sujet de l'ascension, il est beaucoup plus large. Alors on en a déjà parlé, hein, on n'est pas à la première année où il se passe l'ascension. Chaque année, on revient sur le sujet. Mais aujourd'hui, je crois que c'est bien si on peut garder ces deux choses. Nous sommes montés avec le Seigneur par la foi jusqu'au jour où notre corps va se transformer pour être capable d'entrer dans cette sphère spirituelle. Et le Seigneur est descendu et il est avec nous. Et nous avons ce témoignage du Saint-Esprit. Nous avons une double nationalité. Alors d'une part, il y a une immense espérance. Il y a une immense consolation. pour tous ceux qui vivent dans la souffrance, tous ceux qui souffrent dans leur corps. Votre destinée, ce n'est pas ça. Votre destinée, elle est dans les cieux. Votre destinée, c'est un corps transformé, glorifié, guéri. C'est peut-être pas seulement le corps, les galères que vous traversez. Ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être de toutes sortes. C'est pas ça votre destinée. Votre destinée, elle est glorieuse. Une puissante consolation, un puissant encouragement. Et aussi une puissante exhortation. Puisque j'ai l'esprit en moi, puisque j'ai cette double nationalité, puisque cette double nationalité, elle me vient de la purification des péchés, que cette purification des péchés, elle me vient d'un sacrifice, de quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi, alors, ce que je lui donne en retour, c'est de conformer ma vie à sa volonté, c'est de l'honorer. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Faites-le comme pour le Seigneur. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que tout seul, nous n'y arrivons pas. Nous sommes capables de rien de bien tout seul. Mais avec lui, avec sa grâce, conduisons-nous comme des enfants de lumière. Soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux, a dit Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons bientôt voir comment faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aborder ce sujet-là, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va déjà garder cette montée et cette glorieuse descente pour une nouvelle et définitive remontée. Et je vais m'arrêter là, mais je vais inviter Reed. Tu peux venir maintenant, s'il te plaît. Il y a un nombre d'années certain. Rides a composé une chanson. C'est un peu le même sujet, pas tout à fait, pas entièrement. Mais ça touche à ce sujet-là. Et je me suis dit, quand je préparais cette prédication, que ce serait peut-être bien de l'entendre et comme ça, pendant ce temps, on peut juste faire entrer ces paroles. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.
C'est pas facile de vivre la peine, de croire encore. C'est difficile, mais ça vaut la peine de faire ses efforts. Au bout de mes rêves, Jérusalem, ville éternelle. Du ciel, je ne suis pas d'ici, je suis de passage, et ma patrie est éternelle. Toute ma vie est un long voyage pour le ciel. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage, et ma patrie est éternelle. Toute ma vie est un long voyage pour le ciel, pour le ciel, pour le ciel. le temps présent et ses souffrances ne peuvent être comparées à ce qui m'attend dans sa présence avec les rachetés. Sur mon chemin, Emmanuel, Dieu avec nous. Sur mon chemin, il est au-dessus de tout. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage. Ma patrie est éternelle. Toute ma vie est à l'envoi. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage. Ma patrie est éternelle. Toute ma vie est un long voyage. Pour le ciel, pour le ciel, pour le ciel, pour le ciel. Mon souffle vous parle d'où il vient. Voilà mon assurance. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage. Et ma patrie est éternelle. Toute ma vie est un long voyage. Oh, pour le ciel. Je ne suis pas d'ici, je suis de passage. Pour le ciel, pour le ciel, pour le ciel.